Vous écoutez RTL.
Vous êtes bien sur RTL. RTL, première radio de France.
RTL, la curiosité est un vilain défaut.
De 14h à 15h, avec Sidonie Bonnec et Thomas Hugues.
Bonjour à vous les curieux, quel bonheur de vous retrouver tous les jours à 14h sur RTL. Bienvenue dans votre émission qui se passionne pour tout, l'histoire, les aventures, la science, la musique, la nature et la vie quotidienne. Vous allez bien, Thomas ?
Salut Sidonie, je suis en pleine forme. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Tout à l'heure, vers 14h30, on reçoit un nez dans la curiosité, mais pas n'importe lequel. Le nez de l'un des plus grands parfumeurs français. Sa mémoire olfactive est phénoménale. J'en parlais avec Vincent et Christelle. 3000 odeurs différentes. Et puis, il nous dira pourquoi l'extrait d'iris est le plus cher au monde.
Et tout de suite, un grand destin sur RTL, celui du Mahatma Gandhi.
RTL. Gandhi, le père de la nation indienne, a toujours soulevé les passions de son vivant.
Thomas Hugues.
On le considéra tour à tour comme un fanatique, un excentrique, un réactionnaire, un révolutionnaire, un homme à abattre.
Sidonie Bonnec.
Il lutta toute sa vie contre la violence, mais l'Inde indépendante naquit dans un torrent de sang.
Curieuse, curieux.
Il prêcha toute sa vie la non-violence.
Vous êtes chez vous, sur RTL.
Les vies cachées de Gandhi, c'est ce qu'on vous promet dans la curiosité sur RTL. Bonjour Pierre Baron.
Bonjour.
Ravi
Pierre.
De vous retrouver.
Bonjour Sidonie.
Vous êtes notre consultant en histoire. Alors nous sommes le 30 janvier 1948 à 17h. Que s'apprête à faire Gandhi ?
Gandhi dans une luxueuse villa à New Delhi et s'apprête à les prier. Et dehors, dans ce grand parc qui entoure cette villa, il y a à peu près 500 personnes qui l'acclament.
Il a quel âge ?
Il a 78 ans ouais. À ce moment-là, cette année-là et ce jour-là. Et qui l'acclame et qui se prosterne devant lui. Et là, il va se passer quelque chose de tragique parce qu'un des plus grands hommes de ce siècle va disparaître en quelques secondes.
Il est entouré de sa famille, de ce qu'il appelait ses bâtons de vieillesse.
Oui, ses bâtons de vieillesse, c'était une expression malicieuse qu'il utilisait pour désigner ses deux petites cousines, qui étaient des fillettes, quoi. Comme il marchait sur leurs épaules, c'était ses bâtons de vieillesse. Et c'est comme ça qu'il gravissait ou il descendait les marches qui précisément l'amenaient à ce parc où il allait rejoindre la foule pour prier.
Alors c'est évidemment l'assassinat de Gandhi qu'on est en train de raconter. Cet homme qui jaillit de la foule, qui est-il ?
C'est un extrémiste hindou. Comment dire ? Cette famille chez lui, puisque son frère a tenté d'assassiner Gandhi 10 jours plus tôt avec une bombe qui a explosé à 50 mètres mais qui ne l'a pas tué. Et lui réussit son coup, il se fraye un chemin, il est assez corpulent, il a une veste kaki, paramilitaire. Et il s'approche, il se fraye un chemin de force et là il brandit un revolver, il tire par 3 fois à bout portant sur Gandhi qui va mourir une demi-heure plus tôt. La légende, mais je me méfie beaucoup des citations historiques, dit que Gandhi aurait dit « Hey Rama », c'est-à-dire « Ah Dieu ». Mais bon, encore une fois, moi, les citations historiques.
Est-ce qu'on sait pourquoi, pourquoi il en veut à Gandhi ? Gandhi s'est fait beaucoup d'ennemis le long de sa vie. Pourquoi cet homme, son assassin, lui en veut ?
Il n'est pas le seul, Thomas. Mmh. En fait, il y a toute une partie de l'Inde qui est très très remontée contre Gandhi, car Gandhi prend fait et cause pour les musulmans, après la partition de l'Inde au lendemain de la guerre, avec la création du Pakistan, et donc considère qu'il veut lutter contre la guerre civile et il fait un jeûne, il fait une grève de la faim pour forcer la main aux dignitaires religieux. Mais il fait ce combat, il ne le mène pas pour les hindous, il le mène pour que justice soit rendue aux musulmans et que l'Inde paye une très forte somme d'argent qu'il considère devoir au Pakistan et devoir aux musulmans. Évidemment, pour les nationalistes extrémistes de l'Inde, il devient un traître, alors qu'il est, pour la plupart de son peuple, quasiment un saint. Pour un certain nombre d'agités, c'est un traître à la nation.
Gandhi, Pierre Baron, va militer toute sa vie pour l'indépendance de l'Inde. Quelles sont les différentes étapes de cette indépendance et comment il va y parvenir ? Par quelles actions ?
Gandhi va très vite théoriser une conception qui est de... Quand vous êtes en désaccord avec quelqu'un, ça peut arriver très souvent dans l'histoire que la violence naisse. Et dans l'esprit de Gandhi, très vite, très jeune, vient cette idée phénoménale, peut-être aussi liée au christianisme, quand on dit tendre la joue gauche, quand on en a pris une sur la droite, qui est que cette violence, il faut la retourner contre soi et pas l'imposer à l'adversaire. Et donc, Gandhi va toute sa vie mener cette lutte que lui appelle de la patience et qui est en réalité une discipline phénoménale qui consiste à surmonter sa colère. Et comment surmonte sa colère ? Par la désobéissance civile qu'il va théoriser et par le principe de la non-violence qui veut qu'un État ne devient plus légitime quand son peuple le refuse.
Donc ça, c'est la théorie qui va irriguer, on va dire, toute l'action politique de Gandhi. Ce qui est dingue, et on comprend, vous nous l'avez dit tout à l'heure, la réaction, ce qui le traite de traître, c'est que Gandhi, c'est le héros de l'indépendance de l'Inde.
Bien sûr.
Comment a-t-il obtenu l'indépendance de ce pays ?
Il l'a obtenu avec beaucoup d'entêtement à travers deux guerres mondiales, faut jamais l'oublier. Mmh. La première, où tout de même 1 700 000 Indiens, c'est pas rien, sont engagés directement ou indirectement sur le front, et où Gandhi, apôtre de la non-violence, intervient pour que les Indiens viennent se battre et mourir. Ça veut donc dire que Gandhi fait le sacrifice et demande à son peuple de sacrifier la vie de ses sujets pour pouvoir être payé de retour dans les années 20 et au-delà de l'indépendance. Ça ne fonctionne pas. Gandhi va donc enclencher la mécanique des pétitions, des sittings, des mouvements pacifiques où on oblige un pouvoir à être désarmé par la masse de gens qui pacifiquement le renient.
Comment Gandhi est-il devenu cette figure de l'indépendance, le père de la nation indienne ? On va aller voir dans sa jeunesse un peu tout de suite sur RTL.
L'Inde, où naquit Gandhi en 1869, était vaste et peuplée d'une masse imprécise et mal connue de race. Cette société, dominée par les religions, avait des demandes complexes. Pourtant, au-dessus de cette masse régnait un système cohérent, l'Empire des Indes.
La curiosité est un vilain défaut.
Ces certitudes allaient être modifiées par un petit homme insignifiant, Mohandas Karamchand Gandhi de Gujarati, de la caste des Troudousses, avocat.
Sidonie Bonnec, Thomas Hugues.
Gandhi, mort assassiné il y a 70 ans, on raconte son histoire, on découvre ce grand destin avec notre consultant en histoire, Pierre Baron. Il naît donc le 2 octobre 1869 au nord-ouest de l'Inde. Dans quel milieu familial ? C'est un milieu riche ou plutôt pauvre ?
Entre les deux, je dirais, Thomas, c'est une caste de marchands. Donc ce ne sont ni des guerriers, ni des lettrés, ni des religieux qui sont considérés en Inde comme des castes supérieures. C'est une caste intermédiaire, on vit pas mal chez les Gandhi, il a des frères et sœurs, et assez bizarrement, il est tradition dans cette famille d'avoir plusieurs femmes avec plusieurs enfants sous le même toit. C'est une tradition familiale.
Dans la mise en onde de Sébastien Dudouis, on a entendu le nom complet de Gandhi.
Vous allez le répéter, Thomas ?
Non, je vais pas me risquer à ça, mais en revanche, j'ai pas entendu Mahatma. Mahatma, c'est un surnom, c'est quoi ?
Mahatma, en sanskrit, le sanskrit pour faire vite, c'est la langue des textes religieux hindouistes et bouddhistes. Ouais. Ça veut dire grande âme. Mais Gandhi n'aimait pas du tout qu'on l'appelle comme
grande
ça.
Grande âme.
Grande âme, une D'accord. âme supérieure.
Il n'aimait okay. pas qu'on le valorise.
Ah, il détestait ça parce que ça heurtait de plein fouet son humilité. Donc, par contre, il avait un autre surnom que, encore une fois, le peuple indien lui donnait affectueusement, qui était Bhupa. Bhupa signifiant le père en indien. Dans une des 120 langues officielles de l'Inde, ça signifie le père. Ça, par contre, il l'acceptait très volontiers, puisque c'est le père de la nation.
Donc, Gandhi grandit dans une famille traditionnelle indienne, et il a envie de sortir de cette famille et de partir étudier. Il décide d'aller où ? Et quelle réaction a sa famille ?
Alors, il décide de partir chez l'occupant, si j'ose dire, chez l'anglais, puisqu'il est le colon. Et il va à Londres, il va dans une université de droit extrêmement réputée déjà à l'époque. Elle l'est toujours aujourd'hui, fait partie des 10 plus grandes, mais elle l'était à la fin du 19e. C'est l'University College. Il va donc, il a 18 ans, il arrive là à l'automne 1888.
Il sait ce qu'il veut faire dans la vie ?
Il veut devenir avocat, ça c'est clair et net. Ouais. Et ce qui est très amusant, Sidonie, c'est les images qu'on a du jeune Gandhi de 18 ans. Parce qu'on est à des années-lumière de l'Indien. Là, à Rome, fait comme les Romains. Lui, c'est à Londres, fait comme les Anglais.
Donc
il a un costume anglais, presque Savile Row. Il a une coupe de cheveux très British. Il ne manque plus que le parapluie, quoi. Et le chapeau melon.
Est-ce que ses chaussures brillent un peu ?
Je ne sais pas. Oui, sûrement, parce qu'il suit des cours de danse. Donc forcément, il a les chaussures bien brillantes.
Alors, on est obligé d'avancer. On ne peut pas raconter toutes les étapes d'un destin aussi majeur que celui de Gandhi. 1893, il a 24 ans. Il part en Afrique du Sud. Et le 7 juin... On peut dire qu'une étincelle va changer sa vie, va bouleverser sa vie, et peut-être celui d'un pays. Que se passe-t-il ce jour-là ?
je dirais, un incident racial dans un train, tout simplement, entre Durban et Pretoria, où son employeur l'a envoyé, et son employeur lui a payé un billet de première classe. Et il se trouve qu'en Inde, selon les États, les Indiens ont le droit de voyager en première classe, et n'ont pas le droit, selon les États qu'ils traversent. Dans la capitale du premier État, je vais faire court, il est arrêté, il y a un voyageur qui le toise, qui le regarde avec beaucoup d'arrogance, et dans les yeux de ce voyageur, on voit très bien que Gandhi le gêne, que Gandhi fait tâche. Or, il a encore le droit de voyager en première classe. Mais ce voyageur va demander tout simplement au contrôleur de le vider, de le sortir de ce compartiment, ce qu'ils vont faire pour l'emmener dans le fourgon à bagages. Et Gandhi refuse. Alors là, c'est un policier qui est obligé de le descendre du train, et il va rester une nuit dans la salle d'attente de cette gare, fou de rage, d'injustice, et probablement étant le déclencheur. Après s'être heurté à l'autorité anglaise juste avant de partir en Afrique du Sud, le grand déclic de Gandhi, c'est probablement cette erreur d'aiguillage, si j'ose dire, et cette façon d'être expulsé alors qu'il se croit et qu'il est vraisemblablement dans son bon droit.
Il invente la résistance passive à ce moment-là, puisqu'il ne veut pas partir.
Il invente, oui, d'une certaine manière. Il invente puisqu'il va écrire directement à son employeur et obtenir d'ailleurs très dans la foulée de cette compagnie ferroviaire, ça prouve que ça peut marcher, les lettres aussi, que les Indiens, quand ils sont bien habillés, je cite de mémoire, sont autorisés à voyager en première et en seconde classe, sans violence. Ça, donc, ça prouve que pas forcément besoin de flinguer 200 personnes pour obtenir une justice, quand même.
Et Gandhi, côté vie privée, dans un instant, vous allez découvrir un homme amoureux. Amoureux d'un homme, on vous raconte ce secret sur RTL.
Sidonie Bonnec, Thomas Hugues.
La curiosité est un vilain défaut.
RTL.
On le surnommait le père de la nation indienne, Bapu. On raconte Gandhi avec notre consultant en histoire, Pierre Baron. Il y a une rumeur assez étrange qui court sur Gandhi. On s'est raconté ça dans la rédaction de La Curiosité. On dit qu'il dormait avec des femmes nues, des vierges, pour tester sa résistance, sa chasteté. Est-ce que c'est vrai, Pierre Baron ?
Oui, à plusieurs reprises, il l'a demandé. Surtout, d'ailleurs, c'est un peu troublant, avec des très très jeunes filles, on va dire. Parfois même de sa famille. Alors bon, il éprouvait sa chasteté. Je n'ai pas de commentaire particulier à faire sur la question, n'étant pas dans la pièce.
Il faut savoir si ça marchait ou pas, que disent les textes.
Les filles ne disaient rien, et lui non plus. Il faut savoir quand même qu'il a été marié très 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 jeune. Hein. Gandhi, il a été marié comme ça se pratiquait à l'époque. Il avait 13 ans. Il a eu 4 fils.
Mariage arrangé, j'imagine.
Oui, imposé par sa famille, tout à fait, Sidonie. 4 garçons, et alors assez rapidement, pour la pauvre Madame Gandhi, il lui a imposé la chasteté. C'est-à-dire que, il a décidé qu'il serait chaste, y compris avec son épouse. Donc, elle a eu 4 enfants, puis après, elle n'a plus eu de mari au sens intime du terme, si j'ose dire. Voilà.
Alors, pour préparer cette émission, on s'est appuyé sur ce livre « Les vies cachées de Gandhi », signé Gilles Van Grasdorff aux éditions du Cerf. Alors, on y découvre une autre facette de son histoire amoureuse. Quelle est-elle ?
La liaison supposée, je dis bien supposée, de Gandhi avec un architecte juif d'origine allemande qui s'appelle Hermann Kallenbach, était un sportif émérite. On l'a appelé le bodybuilder juif parce qu'il c'était un fou de culturisme. C'était quelqu'un d'extrêmement riche. Il va rencontrer au début du siècle, 1904 je crois, Gandhi en Afrique du Sud. Et alors là, sa vie à Calton, elle va changer complètement. Il va être riche, il va apprendre à vivre avec 3 fois rien. Il va donner la plupart de son argent pour financer les combats de Gandhi. Et puis va naître effectivement, Thomas, quand on lit la correspondance, j'allais dire une espèce d'amitié. Alors au mieux, je sais pas, ces deux âmes sœurs ou frères, une fraternité, ou alors il y a autre chose.
Vous avez ces mots ?
Oui, il écrit des courriers très vibrants. Il dit « Je prierai toujours pour que je ne sois en situation d'avoir à renoncer à cet amour presque surhumain. » Il écrit encore « J'aurais voulu te chasser de mes pensées, je n'y arrive pas. Le contrat non écrit qui nous lie voudrait que l'on dénoue les liens de la chair pour que l'on conserve que ceux de l'esprit. » Bon, puis il y a quelque chose qui m'a beaucoup troublé dans leurs lettres. Bah, on y soit qui mal y pense. Hein. Il vivait dans un ashram avec 2 niveaux. Et figurez-vous qu'il s'était auto-baptisé chambre du haut, chambre du bas. Alors, encore une fois, on y soit qui mal y pense. Mais dans leur propre lettre, il y avait chambre du haut, chambre du bas. Mmh.
Alors,
très curieux.
Il y a une autre correspondance qui est beaucoup plus, qui est politique et qui est très surprenante aussi. C'est la correspondance de Gandhi avec Hitler. Il lui écrit plusieurs lettres en 39, en 40. Qu'est-ce qu'elle demande, ces lettres? Que demande le Mahatma Gandhi à Adolf Hitler?
Le Mahatma Gandhi, dans la première lettre de 39, il lui demande tout simplement de retirer ses troupes. Enfin, la lettre est très longue, très alambiquée, très ampoulée. Il utilise une formule qui peut prêter, je dis bien qui peut prêter à polémique, c'est qu'il écrit qu'il est son ami sincère. Dans les deux lettres, d'ailleurs.
Oui, ça commence par « cher ami ».
Ouais. Mais, enfin, c'est mal traduit. « Truly friend », c'est aussi votre ami véritable. C'est aussi votre ami sincère.
Il veut l'amadouer. Il veut l'amadouer pour...
Je ne pense pas. Je pense qu'il y a une naïveté incommensurable de la part de Gandhi à ce moment-là, vis-à-vis d'un homme comme Hitler. J'allais dire, c'est deux mondes, c'est des années-lumière. Donc, il ne doute pas une seule seconde que sa lettre puisse être lue, comprise et voire, voilà, interprétée comme s'il était en Inde par Hitler.
Il le traite de monstre dans sa lettre, Gandhi. Il traite Hitler de monstre. Et il dit, on sait ce que vous faites et vous êtes monstrueux.
Alors il dit plus précisément, ça c'est même plus troublant dans sa seconde lettre, celle de 1940. Il dit, nous n'avons aucun doute sur votre courage et votre dévotion envers votre patrie. Nous ne croyons pas non plus que vous êtes le monstre décrit par vos opposants. Mais vos écrits et vos déclarations, et ceux de vos amis et admirateurs, ne laissent aucune place au doute que beaucoup de vos actes sont monstrueux et étrangers à toute dignité humaine, spécialement du point de vue de personnes qui, comme moi, croient à l'amitié universelle. Bon, voilà, c'est tout Gandhi. C'est un côté Tintin. Je suis un peu brutal.
Un peu angélique.
Voilà. Allez donc parler de l'amitié universelle à quelqu'un comme Adolf Hitler. Mmh. Voilà. On n'a pas la réponse d'Hitler. Est-ce qu'il a répondu? On ne sait pas. On peut penser que les autorités anglaises ont confisqué ce courrier. C'est possible.
Voilà. Une dernière histoire sur Gandhi dans un instant. Il est passé à Paris. Vous découvrirez ce qu'il a dit en découvrant notre tour Eiffel.
Bonjour, c'est Julien Courbet. Chaque jour, entre 9h30 et 11h, écoutez votre émission qui règle vos problèmes. En direct, nous appelons la partie adverse et c'est parti pour une sacrée négociation. Alors à bientôt sur RTL.
RTL.
La curiosité est un vilain défaut.
Thomas Hugues, Sidonie Bonnec.
14h31 sur RTL, merci d'avoir choisi la curiosité, merci d'avoir choisi la première radio de France. On vous fait découvrir le destin de Gandhi, mort il y a 70 ans, avec notre consultant en histoire Pierre Baron. On va terminer avec sa visite à Paris 1889, l'exposition universelle. Il découvre, comme tout le monde, la Tour Eiffel. Comment réagit-il?
Ça lui fait pas un effet bœuf. Il considère que c'est plutôt un jouet, c'est ce qu'il écrit dans sa correspondance.
Un grand jouet, oui.
Un grand jouet, mais enfin, il dit que les hommes sont de grands enfants, et ça correspond assez bien, il trouve ça futile, en fait, cet objet. Par contre, il a une profonde admiration, on va dire, pour Notre-Dame de Paris. Et les sculptures, notamment les peintures de dévotion, ça c'est quelque chose qui a tout jeune homme qui l'est, indépendamment du fait que c'est pas sa religion bien évidemment. Ça évidemment ça le marque davantage. La piété de Notre-Dame l'interpelle davantage que le chef-d'œuvre de Gustave Eiffel.
Gandhi, Pierre Baron a laissé beaucoup de maximes, de pensées, de mantras. Il y en a une que vous aimez particulièrement et que vous voulez partager avec nous.
Oui, j'en ai une que j'ai trouvée très très belle. La règle d'or de la conduite et la tolérance mutuelle. Car nous ne pensons jamais tous de la même façon. Nous ne verrons qu'une partie de la vérité et sous des angles différents. À méditer pour un monde meilleur.
On prend.
Tolérance mutuelle, on prend. Merci,
merci beaucoup.
Merci beaucoup
Pierre Baron. À bientôt dans La Curiosité pour une nouvelle histoire.
Merci à vous.
Vous écoutez RTL.